Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif, c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, à mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel, tu vois, parce que genre, t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.
Salut à tous et bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, l'émission 100% dédiée au monde du vin sur Divergence FM. Alors, retour à l'envoyeur. On croyait la consigne rangée au rayon souvenir de nos grands-parents et pourtant, elle revient fort dans nos bouteilles. Alors, comment ça marche? Pourquoi maintenant? Et surtout, quel est le véritable impact écologique du verre dans le vin et ce que la consigne peut changer? Aujourd'hui, on plonge dans le sujet avec Hoc Consigne, l'entreprise montpelliéraine qui déploie la consigne en Occitanie, vin, bière, cidre et autres breuvages. Et on sera ensuite avec le domaine de la Clausade et son fondateur Olivier, en bio évidemment, et qui a fait le choix de ce retour à la consigne. Allez, on rince, on rend, on recommence, c'est parti pour l'émission. Alors bonjour Sophie.
Bonjour Willy.
Avec l'une des fondatrices de Hoc Consigne. Alors, qui êtes-vous et pourquoi aller vers la consigne?
Alors, qui je suis? Donc, effectivement, Sophie Gradiani-Roth, je suis une des cofondatrices de Hoc Consigne. En fait, le point de départ, c'était juste un retour au bon sens. On s'est posé la question, quand on a repris cette association en 2020, c'est une association qui avait été stoppée, on s'est dit que c'était juste du bon sens. Et après, qu'est-ce qu'il y a derrière ce bon sens? C'était effectivement le geste que pratiquaient nos anciens jusque dans les années 80. Moi-même, je l'ai connu quand j'étais toute petite, ma grand-mère faisait ça. Et aujourd'hui, le problématique, c'est qu'il faut tout réinventer. Il faut réinventer toute la filière. Et entre-temps, on a appris à recycler, fort heureusement. Mais en fait, le recyclage, c'est loin d'être sobre pour l'environnement. Ça suppose d'utiliser beaucoup d'eau, d'énergie. Enfin, je pourrais revenir sur les chiffres concrètement. Mais en tout cas, c'est juste l'impact du recyclage et assez important, et du coup, le fait de laver une bouteille plutôt que la recycler, c'est beaucoup plus sobre, et ça utilise beaucoup moins de ressources naturelles.
Et avant de monter Hoc Consigne, qu'est-ce que vous faisiez avant alors?
Alors absolument rien à voir, j'étais pas du tout dans le même monde, j'ai fait des études très sérieuses, j'ai fait Sciences Po Grenoble, j'ai fait un master en management des organismes publics, donc ça m'amenait pas du tout vers la consigne et vers le monde industriel, et après j'ai travaillé après 10 ans dans le développement touristique, dans le nord-est parisien, et après je suis allée dans le monde de la communication et de l'événementiel. Donc juste avant, j'étais en agence de communication en fait.
Ok.
Donc rien à voir.
Effectivement, rien à voir. Du coup, pour vous, l'écologie, c'est quoi? Vous avez une demi-heure.
Pour moi, c'est la base. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas se poser la question, c'est quoi l'écologie? Ça devrait être notre façon de vivre, qui devrait être alignée avec notre environnement, et qu'on ait conscience de l'impact de toutes nos façons de consommer, etc. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut qu'on réinvente nos manières de consommer, qu'on se réinvente. Et personnellement, effectivement, j'ai repensé ma manière de consommer à titre personnel, et c'est ça qui m'a amenée vers Hoc Consigne, en fait. J'étais dans une démarche de réduction des déchets, de faire attention à plein de choses, et quand je regardais mes déchets, en fait, qu'est-ce que j'avais? Donc j'ai quasiment plus de déchets à la maison, réellement. Par contre, j'avais beaucoup de bouteilles en verre. Et là, quand je cassais mes bouteilles, à chaque fois, je me disais, mais pourquoi je casse cette bouteille? Je vois qu'elle est en bon état, j'ai juste à la laver, normalement. Et voilà. Donc l'écologie, c'est quoi pour moi? C'était ça, la question.
Effectivement.
L'écologie, c'est le retour au bon sens.
Ouais. Ok, donc vous fondez Hoc Consigne. Est-ce que vous pouvez nous faire une carte d'identité de l'entreprise? Voilà, une présentation succincte de l'entreprise.
Alors Hoc Consigne, c'est d'abord une association qu'on a transformée en SCOP, donc société coopérative qui appartenait à ses salariés en 2021. Et en 2025, donc il y a tout juste 6 mois, on l'a transformée en SIC. Donc c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Ça veut dire qu'elle appartient à toute la filière. Donc sont aujourd'hui sociétaires à la fois les salariés, toujours, mais aussi les producteurs, les distributeurs, les collectivités locales et des particuliers qui souhaitent prendre des parts au développement de l'entreprise.
Et pourquoi ce choix, du coup
De ce statut juridique parce que c'est un sujet d'intérêt général, en fait, le retour de la consigne. C'est
pour
pas du
impliquer,
tout...
en fait, le plus de personnes possible dans l'aventure.
Tout à fait. Ça concerne tous les maillons de la filière. Il faut que tout le monde se sente concerné par le développement de cette filière et aussi qu'on prenne en compte les problématiques des uns et des autres pour qu'on travaille ensemble pour le développement de la consigne. Donc, effectivement, c'est un travail d'équipe, clairement. Il faut qu'on soit nombreux à porter ça sur nos épaules parce que sinon, c'est un peu lourd comme fardeau. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et qu'il y a besoin qu'on ait beaucoup, beaucoup d'ambassadeurs.
C'est clair, ouais.
Et aussi, un autre sujet, c'est qu'il y a besoin de fonds. Donc en société coopérative, on ne fait pas de levée de fonds avec des actionnaires qui viendraient pour avoir aussi des dividendes. Par contre, nos actionnaires amènent du financement à l'entreprise, qui est aussi très précieux parce qu'on en a besoin dans cette phase importante de développement.
Ok. Et ici, aux consignes, à côté de la gare sud de France, on est à Lattre,
Oui, c'est ça, sur la commune de Lattre. Ouais.
Vous êtes combien alors à travailler dans l'entreprise ?
Aujourd'hui, on est une petite dizaine. Donc sur plein de métiers différents. On a aussi 4 personnes en insertion, parce qu'on a l'agrément entreprise d'insertion. Mais on a démarré, on était 3 à travailler à la maison. Donc on a cherché des locaux pendant quelques temps. Donc le point de départ, c'est qu'on a fait une étude de marché qu'on a menée depuis chez nous. Et ensuite, quand on est passé à la phase opérationnelle, l'expérimentation, on a été hébergé dans une cave coopérative avec l'enclos de la Croix à Lansargues. Et après, on a désespérément cherché un bâtiment industriel pour accueillir l'usine.
Ah oui, on a vu la chaîne de lavage, c'est vrai que c'est pas tout petit.
C'est ça, on met pas ça dans notre garage, clairement, donc il fallait vraiment qu'on ait un bâtiment industriel. On a cherché avec beaucoup de collectivités autour, et c'est finalement grâce à la métropole de Montpellier qu'on a trouvé ce bâtiment, puisqu'il leur appartient, et où on pouvait à la fois mettre la partie usine, les bureaux, c'était tout à fait adapté en termes de surface, et d'accessibilité aussi vers les autoroutes, etc. Donc l'emplacement est vraiment très... vraiment idéal aujourd'hui, puisqu'on couvre, on intervient sur globalement tout l'est de l'Occitanie, voire au-delà, puisqu'on lave des bouteilles qui viennent bien plus loin, parfois de 300 km au-delà.
Alors revenons à la bouteille. Vous dites que c'est finalement le bon sens, l'écologie, de non pas recycler la bouteille, mais de la réemployer. Concrètement, est-ce que vous avez des chiffres d'un point de vue impact?
Oui, tout à fait.
Entre le réemploi versus finalement casser une bouteille, la refondre et la remettre sur le marché.
Ouais. Oui, on a des chiffres importants, c'est des chiffres de l'ADEME, pas des chiffres de consigne.
Ouais, c'est des chiffres d'une étude indépendante de l'État.
Tout à fait. Donc on se base d'abord sur ces chiffres-là qui nous indiquent, en fait, vous en avez conscience déjà, quand vous cassez votre bouteille, ensuite elle est broyée, c'est chauffée à 1500 degrés pendant 24 heures continues. Donc là, on imagine bien l'énergie en fait, qui est déployée pour ça. Ensuite, ce qu'on voit moins, c'est qu'on réinjecte beaucoup de sable dans une bouteille recyclée. En moyenne, c'est 52% de sable, en moyenne. Hein. Dans les bouteilles blanches, c'est 100% de sable. Les bouteilles foncées, c'est moins, ça peut être 10% environ. Et ensuite, beaucoup d'eau, ce qu'on ne voit pas au niveau...
Oui, c'est ultra consommateur d'eau. Hein.
Et à l'inverse, quand on lave une bouteille plutôt que la recycler, ça utilise 2 fois moins d'eau que le recyclage, 5 fois moins d'énergie, et c'est moins 77% d'émissions de CO2 et moins 100% de sable.
C'est colossal.
C'est colossal. Alors ça, c'est des chiffres de l'ADEME qui, globalement, se basent sur des études de structures qui lavent avec des machines plutôt anciennes, des années 60, donc qui ne sont pas forcément les plus sobres. On est en train, chez Opconsigne, de faire notre propre analyse de cycle de vie, ACV, pour avoir des chiffres basés sur notre propre activité. Ce qu'on sait déjà, c'est que notre machine utilise 20 fois moins d'eau que le recyclage. 20 fois moins. Donc là, c'est encore plus colossal.
Et puis ici... tout fonctionne à l'électricité, alors que dans un four, c'est, j'imagine, au gaz ou même au charbon, encore une fois, pour...
Alors nous, c'est aussi au gaz, à vrai dire. On s'est posé la question... On s'est posé la question aussi de l'énergie, mais...
Est-ce que ça peut être un sujet aussi de passer à l'électricité
Oui, complètement. Je ne sais pas pourquoi on est arrivé à cette conclusion. On est finalement sur du gaz, mais en fait on utilise très très peu d'énergie, puisque dans la machine il y a une hyper-optimisation à la fois de l'énergie et de l'eau.
Ok.
Pour vous dire, la dernière eau de rinçage est évidemment la plus pure, elle est réutilisée comme avant-dernière eau de rinçage, etc., etc., jusqu'à ce qu'elle finisse en bain de trempage. Donc ça veut dire que dans tout ce schéma-là de la machine, il y a très peu de rejets. On rejette environ 1,5 m cube d'eau par heure, donc soit pour 3 000, 3 500 bouteilles.
Ok.
Donc c'est très peu.
Et quelque chose qu'on ne sait pas quand on est consommateur ou consommatrice de vin, c'est le poids d'une bouteille, finalement, dans l'impact d'un domaine. Par exemple, en Champagne, où les bouteilles étaient, et même sont d'ailleurs toujours, les plus lourdes, on est sur quasiment 28 à 30%, il me semble, d'impact écologique carbone sur un domaine. Donc, il y a beaucoup de leviers en passant au réemploi, finalement.
Oui, c'est ça. Mais évidemment, il faut intervenir sur la production, sur plein de choses, mais... Souvent, les vignerons pensent d'abord au sol, ce qui est très très important, mais c'est vrai que l'impact de la bouteille, on en a moins conscience.
Ouais, logistique, transport, bouteille,
c'est... Ouais, tout à fait, mais même la bouteille elle-même, parce que sa fabrication en amont, c'est vrai que, et le domaine ne peut rien y faire, hein. Il y a une bouteille et elle a déjà eu un impact environnemental. Et c'est effectivement entre 28 et 35%. Selon si c'est aussi du vin blanc, du vin rouge.
Bien sûr.
Il y a eu des études assez fines qui sont faites là-dessus, oui. Donc oui, et surtout sur les bouteilles blanches, puisque comme je vous disais, en France, c'est 100% de sable pour fabriquer une bouteille blanche, donc c'est encore plus important d'agir sur ces bouteilles-là.
Ouais, et puis le sable, il faut aller le chercher, il faut aller l'extraire. Aussi, il y a un impact écologique assez grand.
Oui, il y a un super reportage à regarder sur le sable.
Sur Arte.
Voilà, exactement. Où on voit qu'en 2100, on n'aura plus de plage. Et là, pour l'instant, on ne le voit pas bien parce que c'est à l'autre bout du monde que ça se passe. Mais en fait, effectivement, il faut du sable. Alors, c'est beaucoup pour le BTP aussi, hein, c'est pas que pour le verre. Mais on va effectivement prendre du sable au fond des océans, dans les mers, sur les plages. Et ça c'est pas une ressource naturelle qui se refait en un claquement de doigts.
C'est plusieurs millions d'années. Exactement. Avant de retrouver du sable qui a été, entre guillemets, brossé par le vent, par les courants marins. Okay.
C'est pour ça qu'il vaut mieux se lancer aujourd'hui dans le réemploi, tant qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a une urgence, mais on n'est pas complètement le couteau sous la gorge. Donc c'est maintenant qu'il faut se réinventer, en fait.
Alors, vous réemployez ici chez Hop Consigne pas que le vin, que les bouteilles de vin. Vous faites aussi, j'ai cru voir le kombucha, le jus de pomme.
Jus de pomme, enfin des jus de fruits, vin, bière. La majorité, je dirais, c'est vin, bière, mais pas mal de soft aussi, de plus en plus, limonade, kombucha, des colas, etc.
Et combien de producteurs et de productrices font appel à Hop Consigne? Alors, combien d'entreprises vous accompagnez?
Alors, nous, on accompagne environ 70-80 à ce jour, c'est à peu près ça, le nombre de producteurs qu'on accompagne dans une démarche complète de réemploi, donc une boucle parfaite qu'on va aussi collecter. Mais il y a aussi beaucoup d'autres producteurs qui font appel à nous pour laver leurs propres bouteilles, mais pas forcément des bouteilles standardisées. Donc c'est des producteurs, là aussi, beaucoup vin ou soft, qui ont leur propre moyen de récupérer leurs bouteilles, soit des bouteilles consommées sur place, des restaurants, ils font des mariages, ils font des fêtes, mais ça peut être aussi avec des boucles faites avec des grossistes, comme les Coca-Cola finalement, où ils sont en capacité de récupérer leurs bouteilles. Et dans ce cas-là, ils vont récupérer leur volume de bouteilles, et quand ils ont 1000, 5000, 10 000 bouteilles à laver, ils nous les envoient et on fait du lavage à façon. Je pense au domaine de Rombaud, par exemple, à Rivesaltes, qui a commencé ça il y a 3 ans maintenant, sans passer sur des bouteilles standardisées, mais comme ils ont à la fois un restaurant, ils font des mariages, c'est des bouteilles récupérées qu'on lave sur mesure pour eux.
Alors, parlons du process. Comment ça se passe, la bouteille? Donc, elle est produite, j'imagine, plus lourde, et comment ça se passe le réseau? Elle est consommée, ramenée? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors, je vous disais, il y a le lavage à façon où, en fait, on peut laver plein de modèles de bouteilles différents. En revanche, effectivement, quand on passe sur une bouteille standardisée, c'est des bouteilles qui sont relativement lourdes. Mais je dis relativement parce qu'elles font environ 500 grammes pour des bouteilles de vin.
Oui, c'est pas non plus une bouteille de champagne.
Non, exactement. Ou de crémant, ouais. Et en fait, c'est déjà des bouteilles qui sont utilisées par beaucoup de producteurs, et en particulier de vignerons, qui ne sont pas en réemploi. Même certains utilisent des bouteilles de 800 grammes sans être en réemploi. Donc là, on imagine, finalement, eux, ils allègent leurs bouteilles en passant à du réemploi. Par contre, pour d'autres, effectivement, d'autres étaient sur des bouteilles plus légères et du coup basculent sur des bouteilles plus lourdes, mais qui vont avoir plusieurs vies, qui vont faire plusieurs rotations.
Et comment se passe une rotation, alors, le cheminement de la bouteille?
Alors, un cheminement, je dirais parfait, une boucle complète, c'est un producteur qui aura une bouteille standardisée, donc c'est un standard national qu'on a mis en place avec tous nos confrères en France. Donc c'est une bouteille qui pourra être consommée, fabriquée à Montpellier, consommée à Lyon, et ensuite lavée le plus localement possible pour être réemployée localement. Donc bouteille standardisée. Ensuite, surtout une étiquette qui va se décoller au lavage, c'est le point le plus important et le plus problématique.
Colle hydrosoluble.
Colle hydrosoluble et un papier qui va absorber l'eau. Donc un papier poreux, on évite les gros vernis, les grosses dorures, voilà. Donc il faut que l'eau rentre dans l'étiquette. Un adhésif hydrosoluble Et ensuite, des petits détails techniques, mais qui n'en sont pas pour nous, c'est par exemple pas de numéro de lot gravé sur la bouteille. Il peut être gravé sur l'étiquette, il peut être imprimé avec des encres spécifiques, mais si c'est gravé, ça ne s'enlève pas au lavage. Donc c'est tous les éléments techniques qui vont faire qu'une bouteille est lavable. Donc c'est pour ça qu'on accompagne les producteurs en amont pour s'assurer que ça va être le cas. Donc on les accompagne, et une fois que tout est conforme à notre cahier des charges national, ils pourront mettre le picto national du réemploi. Donc pour les consommateurs, c'est important de repérer ce picto national du réemploi. C'est pas un picto en consigne, vraiment c'est national. Donc que vous soyez n'importe où en France, si vous voyez ce picto-là, qui ressemble à une petite bouteille avec des flèches qui rentrent, vous pouvez le ramener dans n'importe quel point de collecte en France.
Donc ça veut dire que si j'achète ma bouteille chez à Biocoop ou ailleurs, et ben je la ramène à Biocoop et ça repart dans
oui,
le réseau.
Oui, mais vous pouvez aussi l'avoir acheté, je ne sais pas, à Intermarché. Okay. On n'a pas encore d'Intermarché, malheureusement, point de collecte. J'espère que ça ne saurait tarder. Mais vous achetez chez Intermarché.
Vous avez compris Intermarché maintenant.
Vous repérez que vos bouteilles ont picto du réemploi, même chez Intermarché, il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez les ramener effectivement chez Biocoop. Alors là, ça leur ramène des clients. Aussi clin d'œil à Intermarché.
C'est malin, ça.
Mais vous pouvez aussi le ramener au domaine de la Closade ou à une brasserie à côté de chez vous.
Ça tombe bien, Olivier est là.
Voilà, exactement. En fait, un point de collecte, qu'il soit magasin ou producteur, est point de collecte de toutes les bouteilles qui ont le picto du réemploi.
Okay.
Faut que ce soit le plus simple possible. Le plus évident pour les consommateurs, si vous faites vos courses... voilà, on parle de Biocoop, mais aussi dans des La Vie Claire, Locavorium, Place
du
Marché.
Oui, on a cité une marque.
Oui, oui, complètement.
Parce que j'ai l'habitude, effectivement, d'aller à Biocoop, mais les bouteilles consignées ne sont pas qu'à Biocoop.
Non, non, complètement. Mais ce qui est simple pour le consommateur, vous l'achetez à Biocoop, vous ramenez dans votre Biocoop habituel, et c'est effectivement le schéma le plus simple.
Ok. Alors, j'ai cru comprendre que vous êtes aussi intégré dans un réseau, le réseau France Consigne. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous n'êtes pas les seuls?
Ah non, pas du tout. Effectivement, on est une dizaine en France. Donc, on a effectivement co-créé France Consigne. Personnellement, je suis co-présidente de France Consigne. Et c'est important, très très important, France Consigne, parce qu'en fait, on n'est pas tout seul dans notre coin avec des frontières administratives. Donc, nous, je vous disais, on est basé en Occitanie, mais on a des confrères vraiment partout en France. Et ce qui était extrêmement important, c'est qu'on ait les mêmes règles de fonctionnement, parce qu'on est un interdépendants, nos bouteilles circulent et il fallait qu'on soit d'accord sur les modèles de bouteilles qu'on accepte tous, les types de cahiers des charges, harmoniser les pratiques aussi en termes d'étiquette, ce qui marche, ce qui fonctionne en lavage, ce qui fonctionne chez l'un en général fonctionne chez l'autre. Donc on s'est mis d'accord sur un cahier des charges qu'on fait évidemment évoluer au fur et à mesure des expérimentations qu'on fait, des tests, etc. Mais c'est un cahier des charges commun et c'est ça qui nous permet de donner ensuite le picto du réemploi. Si vous avez le picto,
qui est lui aussi commun à toutes...
Okay. Tout à fait. Et que vous l'ayez eu, que vous ayez été accompagné par Hoc Consigne, par Bout à Bout, par Revera, par L'Incassable, peu importe, le picto du réemploi fait foi parce qu'on a un cahier des charges qualité qui fait qu'on ne va pas vers du greenwashing, c'est du vrai réemploi. On est sûr que ces bouteilles vont se laver.
D'accord, donc c'est France Consigne qui, entre guillemets, coordonne l'action de ces nombreuses entreprises comme la vôtre.
Oui, finalement France Consigne, c'est la Fédération des industriels du réemploi, c'est comme ça que ça se nomme, et ça garantit la qualité du réemploi partout en France de manière homogène. Donc France Consigne fait aussi beaucoup d'expérimentations et surtout beaucoup de croisements d'expertise des uns et des autres, donc ça fait monter en qualité le réemploi en France. On a aussi un autre réseau qui s'appelle Sauvert, qu'on vient juste de créer. Sauvert nous permet en fait de parler d'une seule voix aux enseignes, en particulier de la grande distribution, mais pas seulement, aux enseignes de distributeurs. C'est vraiment un maillon qui manquait, donc on l'a tout juste créé en novembre dernier, c'est très récent, et on voit bien que ça répond à un besoin. Aujourd'hui, quand on parle à Biocoop SA, mais aussi à la centrale, aux centrales d'achat, que ce soit justement Intermarché, Système U, peu importe, ça leur permet, en parlant à Sauvert, de déployer tout de suite le service de la même manière partout en France. Donc on s'est coordonné finalement avec une partie des mêmes acteurs que France Consigne, mais cette fois-ci c'est un organe de commercialisation ou en tout cas de mise en place d'un service commun uniforme partout en France.
Et une idée pour terminer du nombre de bouteilles que vous avez mis sur le marché, que vous lavez chaque année?
Ah oui. Alors qu'on a mis sur le marché, c'est finalement nos producteurs qui font de plus en plus l'effort de mettre des gros volumes sur le marché. L'an dernier, c'était environ 3 millions de bouteilles qui ont été mises sur le marché en bouteilles standard réemploi. C'est sans doute beaucoup plus maintenant. Parce
pour Hoc Consigne ou sur le France
Consigne? Que Hoc Consigne.
Que Hoc
Consigne, c'est 3 millions mis sur le marché français. Après, ces bouteilles-là, donc, souvent un vigneron, par exemple, va commencer avec une gamme ou deux. Et progressivement, au fur et à mesure, voilà, il va passer à davantage de gamme, aussi en fonction de ses distributeurs, comment il distribue ses produits.
Oui, ça dépend aussi de son marché.
Complètement, voilà. Mais en fonction de ça, des ouvertures de marché que ça peut lui apporter, il va passer plus de gamme en réemploi. Les brasseurs, en général, passent tout de suite 100% de leur gamme, parce que voilà, c'est très uniforme. Donc à la fois les grandes et les petites bouteilles. Ce que je ne vous ai pas dit, on fait à la fois les grandes et les petites bouteilles.
Et 33, oui, c'est ce que j'ai vu, ouais, j'ai filmé ça en bas.
Ouais, tout okay. à fait. Donc...
Et bah oui, 3 millions de bouteilles, c'est quand même...
Voilà, donc c'est ce qui a été mis sur le marché. Après, ça a été mis sur le marché partout en France, donc ce n'est pas uniquement sur le territoire de consigne. Nous, en termes ensuite de volume collecté, malheureusement, il est encore beaucoup trop faible.
Oui, bah oui, parce que les personnes ne pensent pas à l'amener au Biocoop ou ailleurs pour que ça reparte dans le réseau.
C'est ça, il faut à la fois plus de producteurs, il faut que ce soit très visible en rayon pour les consommateurs, et il faut qu'il y ait plein d'enseignes qui se lancent en fait comme point de collecte.
Et de l'éducation, des ensuite, institutions.
La sensibilisation, de l'animation, et on n'a pas forcément le temps d'être sur tous les fronts. Donc là, cette année, on va faire davantage d'animation magasin, on va être plus présent sur le terrain pour reparler aussi aux employés des magasins, resensibiliser les consommateurs, remettre en place les PLV dans les magasins investis. Et ça, c'est hyper important pour augmenter les taux de retour. Et aussi, on va passer à la consigne monétaire en 2026. Et on sait que la consigne monétaire va augmenter les taux de retour.
Et bien, ce sera l'occasion d'une prochaine émission.
Oui, en termes de chiffres, pardon, juste une chose que je ne vous ai pas dite. On a ouvert le centre de lavage il y a 2 ans et on a lavé à ce jour un peu plus d'1,2 million de bouteilles.
D'accord, ok.
Donc ça commence à être des chiffres assez intéressants.
Ça en fait de la bouteille. Mm. Merci Sophie.
Merci Willy.
Donc bah, on avait besoin effectivement de trouver un exemple concret de producteurs qui s'engagent dans le réemploi. Donc on est aujourd'hui avec Olivier, le fondateur du domaine de la Closade, situé à Moguio, à côté de Montpellier. Donc avant de commencer, Olivier, est-ce que vous pouvez vous présenter vous et le domaine ?
Bonjour, bah, je suis Olivier. J'ai créé ce domaine à partir de rien, c'est-à-dire il y avait des terres brutes et des bâtiments en mauvais état. En 2018, on a commencé par rénover les bâtiments et ensuite on a planté des vignes en 2019. L'idée générale sur ces terres de Moguio, qui sont les terres, à mon avis, les plus belles et les plus riches de notre région, était de... Surtout, on est au-dessus de la nappe phréatique. Alors vous qui êtes à Montpellier, à Moguio et dans les environs, il faut savoir que la nappe est juste en dessous de chez nous. Et dès qu'on mettait le moindre produit dans nos vignes ou dans nos terres, et ben vous buvez le lendemain matin. Donc quand on a eu l'idée de produire, de se mettre à faire de l'agriculture sur ces terres, on avait quand même une responsabilité qui était énorme. Et c'est ce qui nous a un peu guidés dans tous nos choix. Est-ce que tu as d'autres questions ? Est-ce que tu veux que j'explique ?
Oui, c'est ce que je voulais comprendre ensuite. Donc vous avez planté, non pas des cépages vinifera, en fait les classiques, vous avez planté des variétés résistantes, c'est ça ?
L'inconvénient des terres qu'on a récupérées est qu'elles contenaient pas mal de cuivre déjà.
Ouais.
Et comme on voulait faire du vin en bio, on a choisi un itinéraire technique un petit peu différent des autres. On a essayé de sélectionner des cépages qui n'étaient pas sensibles aux maladies. Et donc, avec notre œnologue Mathieu Lequeux, on a choisi des cépages dits résistants, ou rares, ou nouveaux, ou anciens. Dites comme vous voulez. Mais ce sont des cépages différents des cépages utilisés actuellement sur la plupart du vignoble français. Et leur principale qualité, en dehors des qualités organoleptiques, organoleptiques, ça veut dire qu'ils sont bons, c'est qu'ils ne sont pas sensibles aux maladies.
Donc ça veut dire que pour combattre le général Mildiou et le capitaine Oïdium, pas besoin de traitement.
Ah, trop fort, on n'a besoin de rien, on a juste besoin d'eau et de soleil pour produire des vins qui sont bons et qui n'ont aucun impact sur le sol.
Donc ça veut dire que l'an dernier, qui était une année où il y avait une pression fongique assez forte, c'est combien de traitements ?
Alors, on a un seul cépage qui n'est pas résistant chez nous, c'est la Syrah, et on l'a traité qu'une fois. Pourquoi ? Parce qu'elle est au milieu de tous les cépages résistants. Donc, isoler des gens qui sont malades dans des gens qui ne sont pas malades, et vous n'aurez personne qui va être malade. Donc, très peu de traitements. On a quelques tout petits contournements sur une maladie qui s'appelle le black rot, et on est en train de trouver des solutions avec des produits qui sont... très simples et qui ne produisent aucun impact sur l'environnement. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est la solution, que c'est la panacée et que tout le monde devrait faire ça, mais en tout cas...
Il y a des belles pistes.
C'est une piste incroyable et surtout, on fait des vins qui sont légèrement différent des autres, mais super agréable, super facile, qui s'adapte exactement à ce que le consommateur, enfin le client a envie ou le passionné a envie de boire aujourd'hui.
Alors, écolo à la vigne, au possible, en plus, mais écolo avec, aujourd'hui, le réemploi. Alors, pourquoi avoir fait le choix du réemploi pour les bouteilles de vin?
Alors, ça, c'est une histoire. On a eu plusieurs, on va dire, points de convergence avec le réemploi. Notamment, au Canada, on a fait une conférence avec Marc-André Solis, qui est le spécialiste des sols, et qui a expliqué pendant sa conférence que les vignerons étaient des émetteurs de carbone à cause du verre. Et nous, qui n'utilisons aucun produit, qui passons très peu dans les vignes, qui travaillons très peu les sols, justement pour pas utiliser l'énergie fossile, pour pas modifier trop
la vie des sols, ouais.
Les sols, on se retrouve à être émetteur net de carbone alors qu'on est théoriquement un piège à carbone à cause du verre. Donc ça a été un premier élément fondamental qui est de dire ben, pourquoi nous, vignerons, on peut participer à l'absorption du carbone et en fait on en émet. Pourquoi à cause du verre? Ben ça, on va le changer. Ça, c'était une première raison fondamentale. La deuxième raison, c'est que les gens de consigne sont venus nous voir et on a complètement adhéré à ce qu'ils nous expliquaient. Moi, j'ai payé mes premiers vélos en rapportant les verres de ma mère. Je ne voyais pas pourquoi, aujourd'hui, on n'allait pas ramener les verres. Et troisième élément fondamental, je passe de très nombreuses périodes de ma vie sur des îles ou sur un bateau. Et on a un gros souci. On a un gros souci avec tout ce qui est, je dirais poubelle, mais je dirais plutôt recyclage. C'est-à-dire que quand on est dans des zones qui sont éloignées de tout, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de recyclage et nous devons gérer nous-mêmes nos déchets. Et quand on a fait ça une fois dans sa vie, c'est-à-dire qu'on est allé au bout de ce raisonnement, on comprend très bien qu'avoir des emballages qui ne servent à rien, c'est un vrai problème. Mais il faut être allé jusqu'au bout. Alors aller jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous achetez un produit, et bien son emballage, ce qui est autour, ça va être à vous de le gérer. Donc soit vous faites un feu sur la plage et vous n'êtes pas trop content, soit vous le déposez chez quelqu'un et vous avez honte.
Soit on l'enfouit, mais c'est pareil. C'est...
Soit on l'enfouit et c'est encore pire. Donc en fait, vous comprenez à ce moment-là l'importance de ce qui est le recyclage et pourquoi ça devient un enjeu super important. Si chacun prenait conscience en lui-même qu'il devait recycler tout ce qu'il achète, eh bien, les gens commenceraient à réfléchir différemment. Plutôt que de dire « je vais le mettre dans ma poubelle, je ne sais plus ce qu'il advient de ça », réfléchissez, mettez-vous 5 minutes à réfléchir ce que vous allez faire de tout ce que vous avez acheté et de tout ce que vous gardez, sans la possibilité de mettre dans une poubelle. Vous verrez que vous allez tout de suite penser au réemploi.
Eh bien écoutez, Olivier, merci beaucoup. Superbe émission ensemble sur le sujet de la consigne. Olivier Laclosade à Moggio, allez le voir pour goûter ces cépages résistants, pardon, ces variétés résistantes. Sophie Hoc Consigne, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.
Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel parce que genre, t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.